franceinter.fr. Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
C'est un drôle de livre que vous nous proposez. Contre-attaque, ça paraît dans quelques jours chez Grasset. C'est une série de conversations, d'échanges avec le journaliste Franck Nouchi, étalé sur plusieurs mois. C'est souvent réjouissant. Le point de départ, c'est un texte retentissant que vous avez publié il y a 17 ans dans Le Monde, contre ce que vous avez appelé la France moisie. Cette France, écriviez-vous, qui a toujours détesté les Allemands, les Anglais, les Juifs, les Arabes, les étrangers en général, l'art moderne, les intellectuels coupeurs de cheveux en quatre, les femmes trop indépendantes ou qui pensent, les ouvriers non encadrés et finalement la liberté sous toutes ses formes. Quelque chose à ajouter 17 ans après ?
Oui, c'est-à-dire que ça va encore plus mal.
Oui.
Donc c'est ça qui me paraît essentiel. J'ai republié ce texte qui avait fait sensation, alors que c'était un avertissement, c'était vraiment prophétique.
C'était trois ans avant le 21 avril 2002.
C'est cela, et alors je l'ai republié d'ailleurs en 2007, dans une communication que j'ai eue par table tournante avec Victor Hugo, qui m'a dicté la formule suivante: la France était très moisie, elle méritait Sarkozy.
Et aujourd'hui ?
C'est la même chose, et donc nous sommes dans une sorte de routine électorale. La France, Vianson-Ponté avait commencé avant 68, la France s'ennuie. J'ai aggravé les choses un peu plus tard, la France moisit. Là maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La France suffoque, c'est suffocant. Donc tout va très lentement, on tourne en rond, c'est la routine, la misère s'accroît. Une misère épouvantable, mais bon, on parle toujours des migrants, etc. Mais la misère spirituelle de cette population, enfin de ce pays, grand pays qu'on aura appelé la France, c'est pour ça que je prends le parti des écrivains,
oui,
qui eux avertissent, sont des lanceurs d'alerte, par exemple comme Voltaire. Vous voyez, vous avez les attentats.
Oui.
Vous voyez, le disque dur remonte, c'est-à-dire que c'est le traité sur la tolérance de Voltaire qui s'est arraché partout dans les librairies.
Oui, en même vous temps avez, Hemingway.
Voilà. Après, c'est autre attentat. À ce moment-là, c'est Paris est une fête de Hemingway, ouais, qui s'arrache. Les gens le lisent peut-être pas, et d'ailleurs ils ne trouveront pas ce qu'ils veulent. Peu importe. La littérature pense plus que les idéologues en général.
Mais vous êtes effectivement très marqué, très troublé par la misère intellectuelle du débat
spirituel,
français.
Même, oui, ouais, c'est
spirituel.
Ça. Oui, c'est ça.
Vous trouvez que le débat est médiocre?
Le débat, c'est la routine. Vous avez entendu déjà 10 fois le même débat. Mmh. Vous ne vous ennuyez pas ces temps-ci?
Mais parfois, parfois non. On essaye de.
Mais on s'ennuie à mourir. Voyons, c'est clair. Alors, je crois que le problème est le suivant, c'est que il faudrait affirmer quelque chose. Moi, je suis là pour affirmer quelque chose de très positif, c'est-à-dire la littérature et la grande littérature, et non pas la communication. Falsifié d'une certaine façon. Tout est rentré dans la communication. Vous êtes dans la communication. L'ouvrez les yeux, vous voyez le digital partout, les gens ne lèvent plus la tête, ils ne voient plus qu'il y a un arbre devant eux. Ils sont en train de communiquer. Le langage s'appauvrit. La mémoire n'est plus entraînée. Or, si vous n'entraînez pas la mémoire, c'est un muscle extrêmement fragile. Il faut l'entraîner, c'est un sport, la mémoire. Si vous ne l'entraînez pas, vous devenez de plus en plus passif et voué à regarder sans arrêt le spectacle de l'information. Voilà. Ma femme est psychanalyste. Elle me dit, il y a un an, à peu près, elle me dit, c'est très curieux, elle ne me parle pas des cas qu'elle traite, bien entendu. Elle me dit, voilà, j'ai de plus en plus de patients et de patientes qui se plaignent de ne pas pouvoir mémoriser le paragraphe qu'ils viennent de lire. Est-ce que vous voyez ce que ça peut cacher? Voilà, une baleine sous gravillon, vraiment. Voilà, la mémoire n'étant plus entraînée, la passivité augmente. Si la passivité augmente, ça veut dire que tout s'effondre et que du moisi, on passe à la désagrégation.
Est-ce que vous permettez, Philippe Solers, qu'on revienne quelques minutes sur ce concept de France moisi, texte qui provoque à l'époque une polémique considérable? On est en janvier 99. En fait, là, vous prenez la défense de Danny Cohn-Bendit, qui est candidat aux élections européennes à ce moment-là, contre Jean-Pierre Chevènement et Régis Debray, qui vous réplique très violemment. Trois ans plus tard, donc c'est le 21 avril 2002.
Oui.
Ce texte, vous dites...
Ce qui est bizarre, c'est d'écrire aux trois pages. C'est un article, évidemment, publié dans ce prestigieux journal énorme. Oui. Journal qui, enfin, qui dépérit peut-être un peu, mais enfin bon, le Monde.
Oui.
Et alors ça fait un effet absolument gigantesque,
oui.
Alors que je ne m'y attendais pas du tout.
Vous n'y allez pas de main morte quand même, hein. Surtout contre Chevènement. J'ai relu le texte en entier, c'est assez violent. À ce moment-là, il était au gouvernement, ministre de l'Intérieur.
Mais enfin, c'est à cause du mot qu'il avait employé, sauvageon.
Absolument.
C'est d'ailleurs est en train de revenir, vous avez entendu.
Oui.
C'est curieux ce mot de sauvageon. Voilà, bon, enfin...
Et y a dans ce texte aussi l'idée de cette France moisie qui a bien aimé le 19e siècle, à qui le 20e a fait horreur, sauf pendant ces quatre années de collaboration,
et
etc.
Je vous annonce en effet que tout ça se perpétue, que nous sommes revenus au 19e siècle, et que sans arrêt, vous avez droit à reprendre les vieux trucs du 19e siècle. Prenez Mitterrand, centenaire, mais quel homme du 19e siècle.
Oui.
Le notable amoureux, nous apprenons ça maintenant avec intérêt.
Il y avait une allusion dans votre texte à l'affiche de la France. La force tranquille, pardon, et du village français.
La force tranquille était déjà moisie, mais nous ne savions pas à quel point elle était amoureuse.
Mais il y a toujours deux France
dans le style 19e-iste.
Oui. Il y a toujours deux France, à vos yeux, Philippe Solers.
Au moins, oui. Il y en a plein. Vous savez, je crois beaucoup aux individus. Je suis un Européen d'origine française qui sera peut-être cité dans un dictionnaire chinois. Ça m'est égal. Je suis de Bordeaux. D'abord, je vous signale une chose. C'est qu'en ce moment, on parle beaucoup de Juppé, qui est le successeur de Montaigne.
J'allais
tout
venir.
De même. C'est pas tout à fait le même niveau. Mais à Bordeaux, c'est là où tout le monde va lorsque la France s'effondre. 1870, tout le monde à Bordeaux. Oui. 1914, tout le monde à Bordeaux. Oui. 1940, tout le monde à Bordeaux.
Oui.
Et là, je me demande si c'est pour aller voter Juppé ou c'est tout simplement pour aller à Bordeaux où la vie est vraiment bien. Tout à fait, c'est le savoir-vivre. Je peux vous retenir si vous voulez, si vous allez émigrer. Vous allez émigrer, c'est sûr, un jour ou l'autre, parce que la France sera intenable. Surtout si c'est Marine Le Pen. Donc venez du côté de Margaux, il y a des endroits absolument charmants.
Oui, mais attention, avec le réchauffement climatique, les vignes pourraient être en danger dans les prochaines décennies.
Il y a des caves, il y a des réserves.
Vous avez vu ça, Philippe Solers. Oui, on peut se demander quand même si, parce que vous vantez de n'être ni décliniste, ni souverainiste, ni péguiste, ni populiste, etc. On peut se demander quand même si vous n'êtes pas devenu un peu juppéiste, et même juppéiste précurseur, puisqu'il y a près de 3 ans, vous avez inventé le concept d'identité heureuse par opposition à l'identité malheureuse de Finkielkraut. C'était l'un des slogans, l'un des arguments de votre roman Medium, paru en janvier 2014, c'est-à-dire plusieurs mois avant qu'Alain Juppé ne s'empare du concept d'identité.
Toujours le côté prophétique, oui, c'est ça. Il faut...
Vous en avez parlé avec Juppé,
identité heureuse, c'était pour tacler en quelque sorte le charmant Finkielkraut, qui est désormais dans l'Académie française et qui va se reposer là, dans ce mouroir, pourquoi pas. C'était l'identité malheureuse. Ça avait fait un tabac, tout le monde en avait parlé, alors j'ai essayé de compenser. Voilà. Après tout, le bonheur est une idée neuve en Europe, disait Saint-Just.
C'est en vous lisant qu'Alain Juppé s'est inspiré à trouver l'idée de cette formule
je ne crois pas. Ça a dû lui rentrer peut-être par un... Non, je ne crois pas qu'il lise beaucoup, pas plus que les hommes politiques. Il faudrait d'ailleurs tout le temps interroger sur leur lecture. Par exemple, pourquoi M. Sarkozy s'est-il mis en tête d'attaquer violemment la princesse de Clèves Voilà. Pourquoi a-t-il déclaré que Fabrice Adongo dans la Chartreuse de Parme était un petit con? Vraiment, Stendhal l'aurait provoqué en duel. Pourquoi c'est l'inculture. Vous voyez comment Mitterrand, lui, a traité la question. Assis, en train de lire les essais de Montaigne. Vous voyez déjà un signal, un charentais à Bordeaux.
Un dernier mot avant la revue de presse. Vous parliez de l'Académie française. Il y a des férocités, beaucoup de férocités réjouissantes dans votre livre Contre-attaque, Philippe Solers, notamment par exemple contre Michel Houellebecq. Quand Franck Nouchi évoque sa candidature éventuelle à l'Académie française, vous répondez « C'est normal qu'il pousse la provocation jusqu'au bout. Ce sera une réception parfaite qui mettra pleinement en lumière la misère sexuelle de l'Académie. »
Je crois qu'en effet, ce serait une excellente façon de démontrer la chose.
Ça, c'est surtout féroce pour les académiciens, là, voilà, en l'occurrence. Philippe Solers, contre-attaque, on vous retrouve dans quelques minutes avec d'autres sujets de conversation.